Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bienvenue dans ce nouvel épisode où je reçois Margot Fried-Filosia, où nous allons parler ensemble de l'intelligence intime. C'est d'ailleurs le titre de son dernier ouvrage, publié aux éditions Robert Laffont. Alors avec Margot, on va parler de l'intelligence intime et on va revenir sur cette définition de ce qu'est l'intelligence intime. Quels sont les conseils qu'elle peut nous donner pour tendre vers cette intelligence intime? Que veut dire cette intimité qui déserte le terrain de la sexualité et pourquoi? Quelles sont les causes d'une perte de désir sexuel au sein du couple? On va aussi parler en vrac de libérer son désir, de suivre sa boussole intérieure, de rituels, d'outils et surtout on va apprendre à jouer. Jouer avec la frustration, jouer avec la performativité, penser autrement la sexualité, s'amuser des scripts et justement pour venir les retravailler et les penser comme ce que le couple et les individus ont envie. Vous l'aurez compris, on va beaucoup parler de désir, de jeu, d'expérience, d'intelligence intime. Alors je vous souhaite une très bonne écoute. Au micro aujourd'hui, je reçois Margot Fried-Filosa pour parler de l'intelligence intime. Margot est sexothérapeute, écrivaine, conférencière et formatrice. Elle accompagne depuis 9 ans des couples et des célibataires dans la redécouverte de leur sexualité, du désir, du plaisir et de la joie de l'intime. Elle offre un nouveau modèle de sexualité et de relations de couple, une manière fraîche et différente d'approcher l'intimité pour ne plus se sentir obligé, frustré ou bloqué et se sentir énergisé, épanoui et aligné avec soi-même et avec l'autre. Bienvenue Margot!
Merci, bonjour Camille.
Alors ton dernier ouvrage, et tu as écrit plusieurs ouvrages que d'ailleurs je mettrai dans les notes du podcast, mais ton dernier ouvrage s'intitule « L'intelligence intime, libérer votre désir et inventer votre sexualité », sorti cette année 2022 aux éditions Robert Laffont. Tout d'abord Margot, qu'est-ce que l'intelligence intime ?
L'intelligence intime, pour moi, c'est l'intersection de l'intelligence sociale, relationnelle, émotionnelle et sexuelle. C'est-à-dire que le sexe, c'est pas juste un acte, c'est pas quelque chose de mécanique. D'ailleurs, c'est une des plaintes qui revient souvent, j'ai l'impression que c'est un peu, les gestes sont mécaniques, ça se répète, on refait un peu les mêmes choses, ça tombe dans une routine où on sent pas vraiment le cœur, en fait, on n'est pas vraiment présent. Donc le sexe, c'est pas juste le sexe, c'est aussi tout ce qui se passe dans mon cœur, dans mes émotions, ce que je vis à l'intérieur de moi, donc l'intelligence émotionnelle. Mais c'est aussi une relation avec l'autre, c'est aussi un partage, c'est aussi un moment d'intimité, donc qui demande qu'on cultive notre intelligence relationnelle. Comment on fait pour se parler? Comment on fait pour dire les choses? Comment on fait s'il y a quelque chose qui ne nous va pas ou au contraire dont on a envie? Et je pense que si on est bloqué dans une des trois dimensions, on est forcément bloqué dans notre vie intime. Il y a un moment où ça va se couper. Et je dis aussi souvent que le sexe, c'est quelque chose qui s'apprend. On dit souvent le sexe, ça ne s'apprend pas, mais en fait, si le sexe, ça s'apprend. L'idée juste de mettre un pénis dans un vagin, ok, peut-être que ça ne s'apprend pas. Mais même ça, en fait, je pense qu'on prend tellement de choses pour acquises, genre c'est normal, c'est comme ça que ça se fait, mais en fait, c'est complètement socialement construit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre sexualité, elle est vraiment régie par un scénario de base auquel on se sent un peu obligé de suivre. Il y a toute une codification sociale très fine, en fait, autour des rapports sexuels. Donc tout ça pour dire que pour vraiment s'épanouir dans l'intime, c'est pas juste comment je suis scénario, mais c'est toutes ces dimensions-là, de l'émotionnel, du relationnel et du sexuel.
Donc c'est trois dimensions, émotionnelle, relationnelle et sexuelle. Et c'est des dimensions que l'on peut travailler en séance?
C'est tout à fait ça qu'on fait. Et puis souvent, je pense par exemple à un couple qui venait me voir et elle me dit « Oui, au début de notre couple, tout allait bien. Et puis au bout d'un moment, j'ai perdu le désir. Et maintenant, quand il me touche, j'aime pas ça en fait. » Et la manière dont il me caresse, ça ne m'excite pas. Je sais, ok, quelle solution est-ce que tu peux imaginer? Elle me dit, peut-être qu'il faudrait que je lui montre comment moi je me masturbe, comme ça il saura comment faire. Je dis donc, ok, donc ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. Au début, il savait comment faire pour te caresser et te donner du plaisir sur ton clitoris, mais maintenant, il a oublié. Et quand j'ai dit ça, elle a rigolé, elle dit, ah oui, non, peut-être pas en fait. Si avant il savait que maintenant il ne sait plus... C'est peut-être pas une question de technique, mais c'est peut-être une question que quelque part j'ai fermé mon cœur.
De fermer son... Parce que dans ce que tu décrivais, je me disais, ok, alors c'est peut-être pas une question de technique, est-ce que c'est une question de contexte? Mais alors ça rejoint peut-être fermer son cœur, oui. C'est ça?
Tout à fait. En l'occurrence, il y avait un fort sentiment d'obligation, de il faut que j'ai du plaisir, il faut que j'ai du désir, et du coup, elle appréhendait en fait le moment de sexualité, il y avait beaucoup d'anticipation, beaucoup d'anxiété, et ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne peut pas ressentir de désir ni d'excitation sexuelle si on est dans un état interne d'anxiété. Et donc elle était là, dans son corps, toute tendue, puis lui, il essayait de faire de son mieux, puis du coup, comme ça marchait pas, il allait de plus en plus vite et fort, et du coup, ça lui faisait mal, enfin bref, c'était... Mais le problème, encore une fois, c'était pas la technique en fait, c'était la dynamique relationnelle globale dans laquelle ils étaient pris au piège.
Ouais. Donc ça, du coup, quand tu accompagnes ces couples pris dans cette dynamique, tu travailles du coup de manière individuelle avec les couples par rapport à ça?
Je fais un peu de tout, ça dépend. Mais là, par exemple, je pense à un couple, le scénario typique. J'imagine que c'est aussi ça, les gens qui viennent te voir, c'est elle a plus de désir, lui il a du désir. Il y a un déséquilibre de désir dans le couple. Elle voudrait bien que juste on la laisse tranquille et qu'il y ait plus cette attente, cette obligation d'avoir un rapport sexuel. Et en même temps, elle se sent triste et mal à l'aise de le frustrer. Elle aimerait pouvoir être à la hauteur. Elle aimerait pouvoir lui faire plaisir. Elle aimerait le rendre heureux. Mais elle en a marre de se forcer, en fait. Et on était en train donc de parler avec ce couple dans une séance à deux. Il me disait, mais j'ai tout essayé avec elle, en fait. J'ai essayé de lui demander ce qu'elle veut. J'ai essayé de lui laisser de l'espace, mais du coup, il ne se passe rien si je lui laisse de l'espace. Mm-hmm. J'ai essayé de lui donner que du plaisir à elle. J'ai essayé de lui demander... Enfin, j'ai tout essayé. J'ai essayé de lui faire lire des livres. J'ai essayé de faire plein de trucs. Il n'y a rien qui a marché. Mais en fait, il a essayé plein de choses. Mais on restait, en fait, dans la même dynamique. Lui veut plus de sexe, elle se sent un peu agressée par son désir. Et là, dans notre séance, on a pu élucider ce mécanisme-là. De lui a du désir, elle, au lieu de se demander, moi, de quoi j'ai envie, Elle se dit « mince, je vais être obligée d'eux, je me sens oppressée par son désir ». Du coup, elle se concentre sur lui, du coup, elle se force, du coup, elle lui en veut, puis elle s'en veut à elle-même. Du coup, elle a du dégoût envers la sexualité, du coup, elle n'a pas envie, du coup, elle a de moins en moins de désir.
Mmh. Ouais, c'est parlant, je pense que ça va parler à beaucoup et c'est vrai qu'on voit beaucoup de ça aussi en séance, ce cercle infernal, en fait, finalement.
C'est ça. Mais c'est-à-dire que quand on est dans ce cercle-là, quoi qu'on fasse, finalement, sauf changer cette dynamique-là, c'est voué à l'échec.
Et là, la question qui me vient, c'est mais si on change cette dynamique-là, est-ce que ce n'est pas au risque que le couple ne fasse plus sens de rester ensemble presque ? Parce qu'il s'est construit sur cette dynamique, peut-être.
Il s'est construit sur cette dynamique, mais par défaut. Et souvent, ce qui se passe, ce que j'observe, c'est au début du couple, il y a du désir, tout va bien, c'est fluide, c'est excitant. Au début du couple, on a envie de dire oui à l'autre. Je pense à une cliente, par exemple, qui me disait « Ouais, dans le début, j'avais envie de dire oui à tout. J'étais tellement excitée, j'avais envie de tout faire avec lui. » Mais petit à petit, quand la sécurité du couple s'est installée, que j'avais moins ce besoin de plaire, de validation, de savoir qui m'aimait, de me sentir désirée, j'avais moins facilement envie de dire oui. Et d'ailleurs, j'avais envie de me mettre à distance plutôt. J'avais de moins en moins envie. Mais là, le piège, il est dans dire oui. Dans tout le processus, en fait, même dès le début de leur relation, jamais vraiment, elle disait « Tiens, moi, c'est de ça dont j'ai envie là à l'instant. » C'était plus, elle se laissait porter finalement par l'expérience, par ce que lui proposait, et c'était un vrai oui à l'intérieur au début. Et donc, le travail que je fais avec les couples, mais notamment avec les femmes, parce que je pense que c'est un conditionnement profondément féminin que d'être enseignée, d'avoir appris à faire plaisir, avoir appris à prendre soin de l'autre, aux dépens de nos propres besoins et désirs. Et donc vraiment le travail que je fais avec ces femmes, c'est de revenir à « Ok, mais toi, de quoi est-ce que tu as envie ? Si ta sexualité pouvait être comme toi, tu la désires, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait ?» Et c'est comme ça, en fait, en partie, qu'on commence à sortir de l'obligation et de plus faire pour l'autre, mais faire pour soi. Ça demande aussi de se poser la question de « moi, pourquoi je fais l'amour ? » Qu'est-ce que ça m'apporte à moi, un rapport sexuel ? Et la majorité des femmes qui viennent me voir et à qui je pose cette question me disent une version de « ça apaise les tensions dans le couple, ça lui fait plaisir ». Ou alors ça m'apporte du plaisir. Mais je pense que si on est juste dans la recherche du plaisir dans la sexualité, on passe à côté de ce qu'est vraiment l'expérience en fait, que la sexualité peut nous apporter. Et on reste sur le plan seulement mécanique, en fait, seulement sur le plan sexuel, et on passe à côté des deux autres dimensions finalement.
Ouais. Le pourquoi, comprendre en fait pourquoi on le fait déjà, et en se posant la question, on peut du coup se rendre compte, ah bah finalement, est-ce que en fait je le faisais principalement pour l'autre, ou est-ce que je le fais aussi pour moi, cette dimension-là, du coup, comme tu dis, quand tu accompagnes les femmes, là principalement, c'est de leur permettre d'explorer cette dimension d'elles dans leur sexualité, et puis tu le dis aussi dans ton livre, c'est qu'elles puissent apprendre à dire non aussi, finalement. Tout cet accompagnement qui est difficile, comme tu disais, par le conditionnement des femmes, de vouloir faire plaisir et puis d'être la bonne copine, la femme parfaite qui dit oui à tout et finalement qui n'apprend pas à dire non.
Ouais. Et dire non, c'est fondamental. Et j'apprends un non qui nous connecte parce que je pense que souvent, on n'ose pas dire non parce qu'on pense que ça va nous éloigner. Mmh. Et en fait, l'opposé est vrai. Un vrai non, ça peut nous rapprocher. Un non qui est doux, et un non à la proposition, pas à la personne. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire, dire non, ça ne veut pas dire rejeter l'autre. Dire non, c'est non à ça, mais peut-être oui à ça.
J'adore ce que tu dis, apprendre à dire non pour se connecter, en fait. Ouais. Il y a souvent cette peur derrière, effectivement, de comment il ou elle va le prendre. J'ai pas envie de blesser, pas envie que ça crée des tensions, et donc voilà, je vais dire oui. Et là, c'est vraiment apprendre à dire non pour soi et du coup aussi pour la relation, pour se connecter. C'est vrai que souvent aussi, j'utilise le « oui et ». dire oui à, cette, à une proposition et l'ajuster finalement avec ses conditions, ce que la personne a envie.
Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que c'est important aussi d'expliciter quelles sont les attentes de l'autre. Parce que ce que j'ai observé, c'est que dans la grande majorité, les hommes n'ont pas envie que leur femme se force pour leur faire plaisir. Dans la grande, grande, grande majorité, c'est pas ok pour eux que leur femme accepte de se forcer pour un rapport sexuel. Mais dans l'inconscient collectif et dans l'inconscient féminin, les hommes n'en ont rien à foutre. Il y a vraiment ce truc de, mais en fait, lui, la seule chose qu'il veut, c'est libérer sa tension, c'est se décharger, c'est avoir un orgasme. Et moi, je suis que son objet sexuel et il s'en fout. Ça, c'est notre peur, en fait. Mais c'est pas vrai. Dans la grande, grande, grande majorité, c'est pas vrai. Et en plus, si notre partenaire est avec nous, c'est qu'il nous aime. C'est que c'est pas... Enfin, il peut pas avoir envie qu'on se force.
Dans une relation saine, en tout cas, c'est ce qui se passe.
Dans une relation saine, c'est ça qui se passe. Et souvent, ça, quand j'ai cette conversation, du coup, avec les couples et que les hommes disent « Non, mais moi, j'ai pas besoin qu'on aille à l'orgasme à chaque fois, mais moi, j'ai pas envie qu'elle se force. » Et puis même quand elle le fait, enfin juste ce matin j'avais une séance et il disait « Mais je le sens, tu me fais une fellation une fois par mois, mais je sens ton dégoût et moi ça me dégoûte à l'intérieur. » Ouais, ça vient nourrir, ok, peut-être un besoin et ça libère un peu de ma tension. Mais qu'est-ce que je me sens mal en fait après cette... Je me sens en même temps soulagée et en même temps je me sens triste après cette fellation mensuelle que tu me fais.
Ouais. Ça montre vraiment que les représentations, travailler sur les représentations aussi, comme tu disais, et sur la communication aussi au final au sein du couple, parce que comme cette séance ce matin, c'était peut-être la première fois que cette personne en tout cas exprimait finalement ce sentiment de tristesse par rapport à la situation et du coup les propositions qui peuvent être amenées mais suite à cette conversation.
Exactement.
Et alors dans ton livre, tu dis que l'intimité a déserté le terrain de la sexualité. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
Aujourd'hui, on est dans une ère de libération sexuelle. Et on le voit avec les réseaux sociaux, on le voit avec l'explosion de l'industrie, des sextoys, du porno. Et d'une certaine manière, c'est très chouette. C'est très chouette qu'on puisse parler de sexualité librement. Et en même temps, je trouve que, d'une certaine manière, on va parler beaucoup de la mécanique de la sexualité. Et d'une certaine manière, c'est aussi en train de créer des nouvelles normes de « il faut aimer le sexe » et en plus, aimer le sexe et être libre dans sa sexualité, c'est faire toutes les positions du Kama Sutra, c'est le faire en talons hauts avec de la lingerie et pouvoir le regarder dans les yeux avec le regard un peu... séductrice, c'est avoir un vibro et 15 godemichets, c'est... Il y a un petit peu un côté performatif de la sexualité. Et bien que tout ça, ça puisse être très chouette, ok, pourquoi pas, ça passe parfois un petit peu à côté, je trouve, de l'intimité qu'on peut trouver dans un rapport sexuel tellement simple. Où on est juste là, face à face, on se regarde, on vit des choses intenses. Et quand on regarde, par exemple, la liste de conseils sur Internet, sur comment raviver le désir, c'est tout le temps la même chose. C'est dormir nu, essayer des sextoys, essayer des nouvelles positions, partir en week-end en amoureux. Oui, il va y avoir s'aimer un peu plus et communiquer, mais ça veut rien dire en fait. C'est large, c'est pas assez précis et c'est surtout le message que j'entends sous ça, c'est faire plus. Mais quand on est déjà dans une dynamique où on se sent bloqué, où on n'a pas de désir ou tout ça, on n'a pas envie de faire plus. On n'a pas envie de... dessine une position étrange. On a juste envie de se sentir libre, en fait. Donc, pour moi, c'est en partie ça que ça veut dire, l'intimité, déserter le terrain de la sexualité. C'est qu'on est en train peut-être de rentrer dans une sexualité qui est si mécanique que peut-être elle est plus intime. C'est-à-dire qu'il faut réussir à avoir une érection. Il faut réussir à avoir un orgasme. Et avec tout ça, est-ce qu'on est vraiment encore en train de vivre pleinement le moment présent, en train de respirer, en train de sentir notre corps, en train d'être là tout simplement?
Et cette mécanique, selon toi, elle empêche cette connexion? Parce que ce que j'entends aussi, c'est effectivement avec cette performativité de la sexualité, ce côté mécanique, ce côté toujours plus, les accessoires, etc. On parle peu finalement de ce qui connecte le couple, les personnes ensemble.
Oui. Dans mon livre, il y a toute une partie sur notre sixième sens et sur développer notre capacité à ressentir plutôt qu'augmenter l'intensité de la stimulation. Et notre sixième sens, c'est pas juste un terme abstrait, ça parle du système sensoriel interoceptif. C'est-à-dire qu'on a plein de capteurs sensoriels à l'intérieur. On sent notre ventre qui se serre, on a chaud, on sent l'engorgement de notre clitoris, on sent l'humidité, on sent la contraction, on sent des vibrations, on sent la salive dans notre bouche, on sent une pression sur notre front, on sent plein de choses en fait. Et c'est tout ça qui nous connecte aussi. C'est difficile de se sentir connecté à l'autre si on n'est pas connecté à soi. Et être connecté à soi, c'est aussi être connecté à son corps. Qu'est-ce que là, à l'instant, je ressens dans mon corps? Est-ce que j'ai chaud ou j'ai froid? Est-ce qu'il y a du mouvement? Est-ce que c'est tendu ou détendu? Et tout ça fait que du coup, on peut vivre le moment présent.
Est-ce que c'est ce qui rejoint ce que tu disais, cette boussole intérieure, finalement, en écoutant tout ce qui se passe dans le corps? C'est comme si, en fait, on avait toutes les réponses là et que c'est notre boussole intérieure.
Tout à fait. Et c'est la deuxième chose que je voulais dire en parlant aussi, tu vois, des positions, de tout ça. Quand on est pleinement connecté à notre désir, à nos sensations déjà, à notre corps, du coup, on est connecté à notre désir. Et c'est pas du tout la même chose de dire « Tiens, j'ai envie de faire cette position avec ma jambe en l'air et mon pied entre tes fesses. » Enfin, je sais pas, tu vois, mais à partir d'une idée mentale de « Je me dis, tiens, ça serait bien comme ça. » Parce que je l'ai vu quelque part, parce que je me dis que, parce que ça serait sexy, parce que quelque chose qui vient de notre tête. Ou alors, je suis tellement connectée à mon corps. Là, j'écoute, je ressens, et je sens cette impulsion de bouger mon bras, je sens cette impulsion de me retourner, je sens ce désir de mon corps d'être dans telle ou telle position, de vivre telle ou telle sensation. C'est là où en fait on découvre des choses magnifiques. Et c'est là aussi où du coup on tombe jamais dans une routine, parce qu'on écoute notre désir, parce que on va découvrir une nouvelle position, ou parce que mais qu'on n'aurait jamais imaginé faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir et puis dire « je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça ». Non, tiens, là, à l'instant, je n'aurais pas imaginé ça, mais j'ai envie que tu t'assieds contre le mur, contre le lit, et puis moi, j'ai envie vraiment de m'allonger contre toi et de me reposer pleinement. Mais ah, je le sens, ça part de mon corps, en fait. Ça part d'une impulsion à l'intérieur de moi, pas de quelque chose de réfléchi et calculé. Après, cela étant dit, comme on est tellement éloigné de notre boussole intérieure et tellement conditionné à suivre un certain scénario prédéfini, on s'embrasse, on se déshabille, préliminaire, pénétration, orgasme de l'homme, probablement dans la cavité vaginale, fin. Que ça en devient difficile de faire autre chose. Et donc moi, je fais tout un travail sur sortir du script en fait et poser un nouveau cadre. Ce que ça veut dire, c'est que du coup on peut définir aussi, mais là c'est ça que j'ai envie de vivre, on peut faire ça mais pas ça, donc on peut d'une certaine manière prévoir un petit peu et du coup là négocier, dire mais là j'aurais envie de ça pendant tant de temps et puis après j'aurais envie qu'on s'arrête par exemple. parce que c'est aussi très dur de rentrer dans un rapport sexuel avec cette idée de spontanéité, parce que c'est un peu paniquant. On ne sait pas exactement ce qui va se passer après, qu'est-ce que l'autre attend de moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et souvent, on commence à se poser les questions plus qu'est-ce qui doit venir après ? Qu'est-ce que l'autre attend que je fasse ? Plutôt que vraiment qu'est-ce que j'ai envie, parce qu'on n'est tellement pas habitué à se dire qu'est-ce que moi j'ai envie. C'est vraiment... ça me fait penser à... je travaillais avec un couple récemment et je leur avais donné cet exercice-là d'avoir un rapport sexuel et de, toutes les quelques minutes, se poser l'un l'autre la question de quoi est-ce que tu as envie. Et du coup, et de faire l'amour dans le désordre, en fait. Et c'était tellement chouette. Ils ont commencé, ils se posaient des questions, ils ont suivi à chaque fois. Et puis à un moment, il a dit « j'ai envie qu'on prenne une douche ». Mais enfin, ils étaient là déjà dans le lit, en fait. Il a dit « j'ai envie qu'on prenne une douche et j'ai envie de sentir l'eau chaude sur nos corps ». Et du coup, ils sont allés prendre une douche. Puis ils sont revenus dans la chambre, ils ont continué à jouer. Puis à un moment, elle a dit « j'ai faim ». Il dit, est-ce que tu veux que je t'amène un plateau avec la nourriture ? Et du coup, il est allé lui chercher un petit plateau et du coup, ils ont mangé dans le lit. Et c'est ça aussi la liberté, en fait. C'est de s'autoriser à pas suivre le script. Et ça m'a marqué parce qu'on était là dans cette session et elle me racontait quand il lui a amené le plateau de nourriture. Et elle s'est mise à pleurer, en fait, tellement elle était touchée de la liberté qu'elle s'est autorisée à exprimer ce désir-là qui n'avait rien à voir avec le sexe. Et du fait que lui a vraiment pris son désir en compte et allait lui chercher à manger, ça voulait dire plusieurs choses pour elle. Ça veut dire « ce que toi tu veux est vraiment important pour moi et plus important que moi, mon impulsion d'aller droit au but et aller jusqu'à éjaculer et tout ça ». Ce qu'elle se disait qu'elle était un peu prise dans ce truc de « si je le touche, je vais être obligée d'aller jusqu'au bout ». Et là, qu'il lui amène cette assiette de nourriture, mais ça l'a bouleversée, en fait. Parce que ça montrait à quel point, vraiment, ils pouvaient tous les deux être libres.
De montrer qu'autre chose est possible, et cette liberté, c'est ce que j'allais dire, vraiment, en fait, c'est ça, libérer. Parce que dans le titre de ton livre, il y a vraiment « Libérer votre désir ». Je pense que là, c'est ce que tu nous as proposé comme exemple, c'est totalement ça, quoi. Et on sent ce couple... être complètement dans l'exploration, même dans le jeu. J'avais presque l'impression de voir leur sourire quand tu racontais ça. Et c'est merveilleux, cette flexibilité-là. Et comment on fait quand on a face à nous des couples où on sent qu'il y a quand même une certaine rigidité ou que l'un ou l'autre, l'un des membres du partenaire est peut-être plus dans ce jeu, mais que l'autre va freiner et pas à l'aise avec ça. Par quoi on peut commencer ?
Moi, je viendrais interroger ces freins. Qu'est-ce qui se dit ? Qu'est-ce qui se passe pour lui ou pour elle ? Quelle est la peur derrière, en fait ? Parce qu'un frein, c'est une peur. Mm-hmm. À mon avis, un frein, c'est une peur. Et du coup, peut-être qu'il a peur que si on fait une pause, il va perdre son érection. Et après, qu'est-ce qui risque de se passer ? Ou peut-être qu'elle a peur de perdre son excitation, ou peut-être qu'elle a peur de frustrer l'autre, ou peut-être qu'elle a peur d'être trop et d'être trop exigeante et chiante et si et ça, vouloir demander des trucs qui lui semblent être trop. Mm-hmm. C'est-à-dire, s'il y a une résistance, moi j'explorerai la peur.
Chouette. D'explorer un peu plus tout ça. Ouais. Et alors, tu parlais dans les cas là, que tu mentionnais plus tôt sur le désir, cette disparité hein, de désir qui est très fréquent chez les couples, ce qui est presque normal. Après, c'est la manière de se synchroniser. Mais... Donc, un des problèmes quand même qui revient souvent dans les couples, c'est cette perte de désir sexuel. Alors, soit par l'un des membres du couple, soit par les deux membres du couple. Quel constat tu fais vis-à-vis de ça ? Et à ton avis, quelle est la cause ou les causes ? Parce que peut-être qu'il y en a sûrement plusieurs.
Bon, on en a un peu parlé déjà. Je pense que cette pression, ce sentiment d'obligation, pour moi, c'est la cause principale de la perte de désir dans le couple. Il peut y en avoir d'autres, mais honnêtement, c'est ce que je vois le plus souvent dans quasiment toutes les situations. Il y a finalement un moment où l'un des deux s'est senti obligé pour pas décevoir, obligé pour faire plaisir. Et petit à petit, ça a abîmé son désir, en fait.
Sentir obligé, ça abîme le désir.
Ouais, se sentir obligé, ça abîme. Pardon, se sentir obligé, ça abîme le désir. C'est-à-dire que si on fait un geste sexuel à partir de notre sentiment d'obligation, on ne peut pas y prendre pleinement plaisir. On ne peut pas aimer ça pleinement. On a forcément un pincement dans le cœur après, on a forcément cette sensation de c'était pas juste pour moi en fait, c'était pas très agréable et c'est sûr et certain, ça ne nous donne pas envie d'y retourner.
Souvent, ce que je dis aussi, c'est que des fois, on peut se dire c'est la solution, et c'est peut-être une solution court terme, mais finalement, sur le long terme, ça peut être très, très au détriment en fait de la connexion déjà au couple et à la connexion vis-à-vis de soi, puisqu'on n'a pas respecté son désir.
Tout à fait. Je dirais même pas que c'est une solution court terme, je dirais que c'est une option court terme. Parce que le nombre de femmes qui me disent, après un rapport sexuel, je me sens vide, je me sens seule, je me sens dégoûtée, je me sens sale, je me sens honteuse, alors qu'elles l'ont fait pour faire plaisir. Et ça, c'est juste après, en fait, et même pendant, parfois. J'ai une femme, enfin, je pense à une femme qui me dit, voilà, je lui fais une fellation de temps en temps pour l'apaiser, mais je ressens du dégoût pendant que je le fais. Mais je le fais pour lui faire plaisir, parce que sinon on va se disputer.
L'obligation, même le chantage ou la pression, même si c'est une pression qui ne vient peut-être pas du ou de la partenaire, elle peut venir, mais c'est déjà pas OK. Oui. Et souvent, quand même, ce qu'on entend dans les relations saines, on va dire ça comme ça, une pression, en fait, finalement, qu'on se met soi-même.
Oui, tout à fait.
C'est dur de s'en détacher.
Je pense que c'est dur de s'en détacher seul. Et c'est dur de sortir seul de ce système qu'on a créé ensemble. Parce que finalement, nos blessures viennent s'activer dans les blessures de l'autre. Et du coup, dès qu'on en parle, tout se réactive. C'est assez souvent que je dis à des couples qu'ils n'ont pas le droit de parler de sexualité en dehors de nos sessions. Surtout dans les couples à haut conflit. Ou dans les couples qui ont tendance à beaucoup parler, mais pas avoir de résolution émotionnelle. Par exemple, la semaine dernière, j'avais un couple qui me dit « Mais on n'arrête pas d'en parler, on a tourné le problème sous tous les sens. » Puis à chaque fois qu'on en parle, on finit par se disputer. Et à chaque fois qu'on en parle, ça empire le truc. Je dis « Ok, parfait. Arrêtez d'en parler. » On en parle avec moi, quand je suis là. Et ils font aussi maintenant mon programme d'accompagnement en ligne. Et donc, quand ils sont seuls à la maison, ils peuvent faire les exercices, les méditations guidées, regarder les vidéos. Je dis, quand vous faites la formation, vous avez le droit d'en parler, mais vous ne parlez que du contenu de la formation. Vous n'avez pas le droit d'amener les problèmes du passé, de tout ça, de toi, oui, mais toi, tu fais jamais ci, mais toi, tu fais ça. Ok, stop. Parce qu'il y a un moment où c'est trop dur, en fait, parce que c'est vraiment blessant, je pense, pour les deux, quand il y a une tension dans le couple comme ça.
Et ce sentiment de tourner en rond aussi.
Ouais, tout à fait. Souvent, quand on a ces conversations, on les a... elles tournent en rond, tout à fait, ouais.
Ouais, et de se dire, c'est bon, il n'y a plus d'autres solutions, on a tout essayé, on n'arrive pas à voir. Et finalement, comme tu dis, je pense que c'est une bonne option de dire, arrêtez d'en parler, on en parle en séance, quand c'est cadré, avec une tierce personne qui peut apporter un autre regard aussi.
Ouais, tout à fait. Parce que sinon, on finit par se faire du mal, en fait. Quand on en a parlé et que ça n'avance pas, c'est qu'on a besoin de nouvelles manières de faire les choses. Et pas juste de continuer à tourner en rond.
Et puis, c'est fatigant. Et d'ailleurs, sur cette transition de fatigue, souvent, ce qui revient aussi chez les couples, c'est alors, moi, je vais mettre entre guillemets, excuse, mais d'être trop fatigué, de ne pas avoir le temps pour la sexualité, comme si la sexualité demandait trop d'énergie, alors qu'on le sait, dans les débuts de la relation, on est plein d'énergie, tout feu, tout flamme, et c'est facile pour le sexe. Qu'est-ce qui s'est passé après quelques mois, quelques années, quelques décennies dans ce couple qui dit, qui aimerait des fois, hein, pourtant, qui dirait, bah ouais, on aimerait bien retourner vers de la sexualité, mais pff, on est trop fatigué, on n'a pas le temps, on a toujours 10 000 choses à faire le week-end. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ça?
J'ai envie de dire qu'on est trop fatigué, qu'on n'a ni le temps ni l'énergie de se forcer. On n'a pas... Enfin, c'est souvent des femmes vont me dire mais j'ai pas l'énergie de faire tout ce qu'il va falloir faire. J'ai pas le temps de faire ci, puis ça, que je sais qu'il attend, que j'ai l'impression qu'il attend, et puis moi ça me fait mal quand on le fait, alors de toute manière j'en ai pas très envie. Quand on rentre dans la dynamique où on fait un peu pour l'autre, ou alors on a un script un peu prédéfini, c'est à chaque fois la même chose, et du coup, on peut pas... Le nombre de personnes qui me disent « mais moi, je coupe court à la moindre caresse parce que je sais ce qui vient après. Je laisse plus mon mari me faire des massages, alors que pourtant, j'adore ça, parce que je sais qu'après, il attend une pénétration, ou du sexe, ou une fellation, quelque chose. » Et donc, c'est pas qu'elle n'a pas le temps pour se faire masser, en fait. Ni l'énergie pour se faire masser, c'est qu'elle n'a pas l'énergie pour ce qui risque de venir après.
Ouais. Elle n'a pas l'énergie, et puis des fois aussi, c'est être pris un peu dans la routine qui est confortable aussi, finalement, et des fois de sortir de quelque chose, faire quelque chose de différent, sans dire que ce soit extravagant, mais juste de différent. Des fois, ça demande des efforts, et donc du coup, pour certains couples, c'est déjà, en fait, ouais, je suis fatiguée rien que d'y penser, j'ai la flemme rien que d'y penser, des fois, c'est ça aussi.
Ouais.
Comment on travaille ça?
Je pense que sous ça, c'est surtout une peur. C'est une peur de ce qui risque de se passer, de est-ce que je ne vais pas me sentir ridicule? Est-ce que je ne vais pas être rejetée? Le nombre, notamment d'hommes, qui me disent « mais aujourd'hui, j'essaye même plus ». Parce que la douleur d'être rejetée est juste trop forte, en fait. Je suis plus prête à me confronter à ça.
C'est pas évident, justement, comme tu dis, d'affronter même ses peurs aussi vis-à-vis de ça, de les reconnaître, les identifier, les affronter, et du coup de se dire « est-ce que je suis OK être accompagnée vis-à-vis de ses peurs et à mettre des choses en place ça peut être gênant, je peux être maladroit, on peut se dire oh là là on est comme des adolescents, on sait pas trop comment faire, on est gauche et tout ça, c'est de les accompagner aussi finalement à faire des petits pas pour venir dans quelque chose qui peut-être à l'origine est inconfortable mais qui deviendra quelque chose de peut-être ritualisé, de dynamisant et de libéré.
Tout à fait. Je donne souvent l'exercice des minuteurs de faire 3 minutes ou de faire 5 minutes. Et on se dit, mais parce que sinon c'est aussi, on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais devoir faire, toutes les attentes en fait, la montagne d'attentes, d'anticipation, de peur, de projection. Alors que si on dit, on fait 5 minutes et après on arrête, dans lequel on se caresse, on s'embrasse, on se touche, mais peut-être qu'on ne touche pas les sexes. Ou alors peut-être que justement on touche les sexes, mais il n'y a pas de pénétration. C'est aussi ça, définir un peu le cadre dans lequel on peut se sentir en sécurité. Et moi, j'aime bien commencer avec les couples, avec des petits moments. Récemment, j'avais une femme qui commence notre séance en disant « moi, je me sens complètement inerte, j'ai aucun désir, je ressens rien à l'intérieur de moi. Ça fait 15 ans que c'est comme ça, mais mon mari veut se séparer maintenant. Enfin, si ça continue comme ça, lui ne veut pas continuer, mais moi, je ne veux pas le perdre. Bref, qu'est-ce que je dois faire ?» On a commencé à la reconnecter à ce dont elle avait envie. Et il s'avère en fait qu'elle avait envie de certaines choses, mais elle pensait que ce n'était pas possible, qu'il n'allait jamais vouloir, que tout ça. Et à un moment, je lui propose cet exercice de s'embrasser, se caresser pendant 3 minutes. Et elle me dit « oui, mais si jamais pendant ces 3 minutes, il y a mon excitation qui arrive, est-ce que vraiment on s'arrête ?» Et je lui ai dit « oui
!» On respecte le cadre.
On respecte le cadre, mais encore plus, je lui ai dit « moi, j'ai envie que tu sois frustrée. J'ai envie que tu aies envie, en fait. » Parce que je pense aussi, ce qui se passe souvent, c'est quand on a peu de désir, dès qu'il y a une petite fenêtre de quoi que ce soit, ah, on est en phase d'ovulation, ou alors, ah, ok, l'autre nous a touché, on commence à être excité, on se dit, bon, ok, c'est ma fenêtre, go. Et du coup, on mange plus que notre faim, vraiment. Et après, notre désir est juste rassasié. Et du coup, il fait la sieste, il rentre en hibernation jusqu'à la prochaine fois. Et du coup, je l'ai un peu provoqué en lui disant, mais moi, j'ai envie que vous soyez frustrée. J'avais envie qu'elle sente, en fait, ce « j'ai envie de plus ». Parce qu'il n'y a rien de plus excitant quand on vit l'expérience positivement que « j'ai envie de plus ». cette expérience-là, j'ai envie d'y retourner. C'est comme quand on va dans un grand resto et qu'on ne sort pas affamé, mais on sort rassasié, mais pas malade, tu vois. Je pense que souvent, quand on va dans les grands restos, c'est tellement de nourriture que tu sors et tu es là en mode « Oh !» Et le lendemain, tu ne manges même pas tellement tu es un peu nauséeux et tu te dis bon, « Ça, c'était génial, c'était délicieux. » Mais en fait, je ne suis pas du tout prête à refaire un grand resto avec 8 plats, tu vois, de sitôt, quoi. J'ai besoin de récupérer. Et c'est un peu ça qui peut se passer aussi.
Et j'ai bien aimé ta proposition, finalement, de jouer aussi avec la frustration.
Ouais.
Parce que souvent, on essaye, dans nos sociétés, je pense, à diminuer cette frustration. Surtout, bah là, je parle pour les personnes qui ont le plus de désir dans le couple et qui, du coup, parlent souvent de cette frustration. Mais je suis frustrée. Et puis, bah, du coup, ça devient obsessionnel. Et c'est intéressant. Ça me fait penser, justement, réfléchir à, tiens, quelles peuvent être les pistes pour jouer avec cette frustration. Je n'ai pas la réponse. Si jamais tu l'as, n'hésite pas à la partager. Mais jouer avec la frustration.
Je pense que la frustration, encore une fois, elle est à plusieurs niveaux. Elle est au niveau sexuel. Ok. Bon, pour le niveau sexuel, il peut se masturber ou on peut... Enfin, il y a des trucs. Mais si c'était juste ça... D'ailleurs, un de mes clients me l'a dit récemment. Voilà, si c'était juste ça, bah, me masturber, je le fais. Hein. C'est pas ça qui me manque. Donc, il y a aussi une frustration émotionnelle. Et donc, on peut aussi venir voir, ok, mais en fait, c'est ce que j'entends le plus des hommes, c'est je me sens pas désirée, je me sens pas aimée. Et il y a d'autres manières, en fait, que le sexe de se sentir désiré. On peut venir jouer là-dessus aussi. C'est-à-dire que... Et quand on commence un travail thérapeutique et qu'on commence à changer la dynamique, du coup, on peut se dire... Moi, ce que j'aime bien proposer, c'est de dire, ok, tout ce que vous avez vécu avant, toute la frustration, l'anticipation, les mois d'attente, à partir de maintenant... Comme vous êtes tous les deux là, tous les deux à vouloir faire cette démarche, on dit que ça ne va plus être comme avant. Et vous pouvez vous ouvrir à la possibilité que ça va vraiment être différent. Et du coup, la frustration, tu ne vas pas la vivre exactement de la même manière. On ne vit pas la frustration de la même manière si on a 4 minutes d'un rapport sexuel maintenant qui ne va pas jusqu'à éjaculation, mais où on sait... que bah là, dans 2 jours, on a une nouvelle petite session sexy prévue et puis dans 5 jours, on a une séance de thérapie où on va continuer à faire avancer les choses. Je pense que souvent, la frustration de la personne qui a plus de désir, elle est énorme parce que c'est pas juste là à l'instant, mais c'est aussi toute ma vie, je vais continuer à me sentir rejetée et frustrée si on reste dans cette situation-là. Il va jamais y avoir de résolution. Je vais continuer à souffrir comme ça. Et du coup, c'est parfois 10 ans de frustration accumulée et la projection de 10 ans de plus sur le moment, en fait. Et ça fait vraiment beaucoup, en fait.
Oui, ouais, beaucoup. Et puis, ça entache, du coup, aussi cette connexion, finalement, dans le couple.
Exactement.
Alors, tu l'as peut-être déjà mentionné et sûrement mentionné tout au long du podcast. Si tu pouvais donner 3 conseils aux personnes qui souhaiterait tendre vers cette intelligence intime, qu'est-ce que ce serait ?
Premièrement, se poser la question. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie intime ? Vraiment pleinement. Si tout était possible, si tout était réalisable, si l'autre voulait répondre exactement à mes désirs, à mes besoins, qu'est-ce que... je ressentirais, de quoi est-ce que je ferais l'expérience, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler. Vraiment, quelle partie de moi pourrait s'exprimer, quelle partie de moi est-ce que ça viendrait toucher, de s'autoriser à rêver en fait. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'autorise pas à rêver. Je pense que le problème n'est quasiment jamais qu'on veut pas assez, qu'on veut trop, mais qu'on veut pas assez.
C'est-à-dire que... On rêve pas assez grand.
C'est ça, on rêve pas assez grand. C'est-à-dire que le mécanisme, c'est que j'ai plein de femmes qui me disent « j'ai aucun désir ». On creuse un peu, en dessous de ça, on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout qu'elles ont aucun désir, mais qu'elles pensent que ce qu'elles veulent, c'est trop, qu'elles pourront jamais l'avoir. Et que du coup, bah, ça vaut même pas la peine d'essayer. Du coup, elles veulent plus rien. Mais donc non, en fait, le problème, c'est vraiment pas qu'elles veulent trop, c'est qu'elles veulent tellement pas assez, et du coup, elles vont demander... un dixième de ce qu'elle voudrait vraiment. Et du coup, forcément, on n'a pas ce qu'on voudrait vraiment. Donc, première étape, s'autoriser à rêver. Deuxième étape, proposer à notre partenaire de devenir notre allié, en fait. Dire une version de « je me rends compte que c'est vraiment difficile, en fait, pour moi de t'exprimer ce dont j'ai envie. Et j'aimerais bien apprendre à le faire. Je me dis que tu aurais envie de savoir ce que je veux vraiment et que ça m'aiderait à avoir plus de désir si je pouvais vraiment t'exprimer. Est-ce que ça serait OK pour toi si je te disais plus ce que j'ai envie de vivre dans la sexualité ?» Petit secret, rares sont les partenaires qui disent non à cette proposition.
C'est bien de le dire pour les personnes qui commencent à se dire « Non, mais il ou elle n'acceptera jamais.
» Et troisièmement, s'entourer et obtenir du soutien. Idéalement avec un thérapeute, avec un programme en ligne, avec une forme ou une autre d'accompagnement. Parce que c'est vraiment très difficile de poser le cadre soi-même. Et c'est aussi, du coup, prendre toute la charge mentale pour soi. Le nombre de femmes aussi qui vont me dire, comme c'est moi qui fais cette démarche, j'ai l'impression que le problème, c'est que moi. Mais en fait, non. C'est un problème relationnel, c'est de la dynamique de couple. Et donc, avoir quelqu'un, on a parlé tout à l'heure de l'importance d'une personne tierce qui peut nous accompagner, qui peut faire neutre, en fait, et qui peut ouvrir la porte à des nouvelles propositions qu'on n'aurait jamais pu voir seule.
Donc, premièrement, oser rêver grand. Rêver encore plus grand. Vous pensiez que vous rêviez grand, mais rêver encore plus grand que ça. Deuxièmement, son ou sa partenaire comme allié, finalement, dans cette expérience de couple relationnel. Et troisièmement, savoir s'entourer, être accompagné par des professionnels quand on sent justement qu'il y a des blocages, des appréhensions, des freins, ou même des fois, juste pour apporter une perspective différente auquel on n'avait pas pensé, comme tu disais.
Tout à fait.
Et alors, avant ma question finale, est-ce qu'il y a autre chose qui te semble important d'ajouter ?
On l'a mentionné très rapidement tout à l'heure, mais s'autoriser à jouer, s'autoriser à s'amuser. Souvent, les couples qui viennent me voir, ils viennent parce qu'ils ont un problème grave, parce que c'est devenu lourd, c'est devenu compliqué, et souvent, on a oublié de s'amuser, en fait. Et on a le droit de s'amuser dans la sexualité. On a le droit de dire « Oups, chérie, je crois que j'ai pris les choses un peu trop au sérieux. Je suis montée là dans ma tête et je me suis un peu déconnectée et j'ai oublié de m'amuser.
» Oui. Apprendre en plus, parce que quand on joue, on apprend finalement. On se donne cette permission-là d'apprendre, de ne pas tout savoir. Mm-hmm. C'est pas tout. Peut-être que ça va répondre à la question. Et si les gens, pour toi, si les gens ne devaient retenir qu'une seule chose de la sexualité ou de l'éducation sexuelle, quelle serait la première chose qui te vient en tête ?
S'écouter. Ce qui veut aussi dire jouer, mais c'est vraiment qu'est-ce que moi j'ai envie, de quoi moi j'ai besoin, pas qu'est-ce que je devrais faire, pas qu'est-ce que l'autre attend de moi. C'est moi, à partir de moi, quelle est ma direction ? Qu'est-ce qui va être juste pour moi et dans lequel je vais pouvoir m'épanouir ?
S'écouter. Margot, quelles sont tes actualités ? Tu as parlé du programme d'accompagnement. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ?
Oui, tout à fait. Donc moi, je propose un programme qui s'appelle « Créer une vie sexuelle sensationnelle » en 6 modules. Un module sur le désir, justement, reconnecter à son désir, négocier quand on n'a pas les mêmes désirs. Avec une partie sur sortir du sentiment d'obligation et créer une vie sexuelle basée sur notre désir. Ça parle de la magie du corps érotique, de l'intimité, du slow sex, il y a tout ça. Et il y a des appels de groupe, une fois toutes les deux semaines, et ça c'est vraiment génial. C'est aussi sortir du tabou, sortir de la honte, entendre qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit exactement la même chose que nous, c'est super puissant en fait. Donc voilà, je propose un appel. Il y a plein de manières différentes aujourd'hui de travailler avec moi. J'ai des méditations guidées, j'ai mon accompagnement individuel, je fais des stages, je fais de la formation, j'ai cette formation-là en ligne. Enfin, il y a plein de manières différentes. Du coup, aujourd'hui, je propose de faire un appel d'exploration offert avec une des personnes de mon équipe qui vont pouvoir, basé sur votre situation unique, en fait, vous proposer la meilleure approche pour travailler avec moi.
Génial, bah, je mettrai dans le lien aussi pour directement plus qu'à cliquer pour cet appel.
Super.
Et puis je mettrai aussi tes livres, tes différents livres aussi par rapport à ça. Margot, un grand merci pour ton temps parce que je sais que voilà, tu as eu une semaine bien occupée. Là, on enregistre début novembre et l'épisode sortira en décembre. Donc merci beaucoup pour ton temps, Margot.
Avec grand plaisir. Merci Camille.
À bientôt. Voilà, c'est tout pour cet épisode et si vous écoutez ça, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout de l'épisode, donc merci pour votre intérêt, merci pour votre enthousiasme et donc j'imagine que cet épisode vous a plu, a suscité des choses pour vous. D'ailleurs, dites-le moi, qu'est-ce que cet épisode vous a suscité, qu'est-ce qu'il vous a appris aussi de l'intimité, de votre sexualité. Laissez dès à présent des étoiles, des petits cœurs sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast ou Spotify, voire même un avis, ça fait toujours plaisir. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à des patientes, à des clients, ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. Nous pouvons bien sûr échanger sur mon compte Instagram Camille parle sexe ou sur ma page LinkedIn Camille Bataillon où je partage également des informations sexo, alors n'hésitez pas à me suivre. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.